Vous connaissez l'adage « après la pluie, le beau temps » ? Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail ? Lundi au soleil, ça n'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, cofondateur et associé de matribu.io, cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait ? Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et Lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute ! Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kinda Garmand, directrice générale des Bureaux du Cœur. Salut Kinda, comment vas-tu ?
Salut, ça va très bien et toi ?
Écoute, moi j'ai une super pêche, comme d'habitude. Je t'ai dit, je reviens de quelques jours de congé, fort sympathique. Mais je voulais te dire que je suis vraiment très, très, très content que tu viennes. Alors je te rassure, c'est pas pour brosser dans le sens du poil, je le dis pas à tous les invités, je dis souvent je suis très content. Donc là j'en ai rajouté deux de plus, parce que moi je raconte toujours une petite anecdote. Et j'ai croisé donc Quentin de Yemanja, qui a des magnifiques bureaux dans Paris. Et donc c'est lui qui m'a évoqué effectivement les Bureaux du Cœur. Je suis un peu avec mon regard de, même si je suis né en Bourgogne, avec mon regard de parisien, je suis tombé un peu le cul par terre de ma chaise, voilà, parce que j'ai trouvé que c'était dingue et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire le fait on va parler d'aménagement, d'hébergement dans des bureaux, d'insertion, de réinsertion. Et en fait, j'utilise peut-être trop cette expression, mais j'ai pris une énorme claque quand il m'a parlé de ça, quand j'ai vu comment ça se passait là-bas, etc. Et voilà, c'est pour ça que je t'ai poursuivi depuis pour que tu viennes. Non, je plaisante. Ça a été, en tout cas, t'as accepté assez rapidement. Donc voilà, je suis vraiment ravi que tu viennes et je suis trop content de cette discussion.
Bah, merci déjà pour l'introduction enthousiaste. Et puis merci à Quentin aussi de parler des Bureaux du Cœur. Parce que bon, Yemanja, c'est un cadre, comme tu le disais, qui est quand même assez incroyable. Ouais. Et effectivement, donc, ils accueillent dans leur bureau chaque soir une personne en situation de précarité pour lui permettre de s'insérer. Le cadre est quand même assez incroyable. Je pense que toi et moi, on aimerait bien y dormir.
Ouais, exactement. On aimerait bien y travailler aussi, même.
On essaye de négocier un peu avec Yemanja là pour essayer de trouver une petite place pour dans leur bureau, mais
il y a de la place. Ouais, c'est un chouette endroit. Alors comme toujours avant de s'y coller, il y a un classique du podcast avec quelques questions un peu inopinées. Est-ce que le lundi tu passes au boulot ou au soleil ?
Le lundi, je le passe au boulot. D'ailleurs, je suis beaucoup en télétravail, mais le lundi c'est bureau parce que sinon je n'arrive pas à rentrer
dans la semaine.
Il me faut la claque du lundi pour me mettre dans ma semaine.
Ok, ce petit électrochoc. Et du coup, à quoi il ressemble le lundi ? Je sais que tu me disais que vous aviez une équipe où, il n'y a pas si longtemps, en 2023, vous étiez deux salariés, en tout cas, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs populations qui gravitent autour de l'assaut. On va y revenir. Aujourd'hui, vous êtes cinq. À quoi il ressemble ce lundi ?
Ce lundi, mon quotidien, c'est pas le plus fun de mon job, je pense, parce que concrètement, j'ouvre mon ordi. Bon, j'ai quand même un taf où je suis quand même beaucoup derrière un ordi.
Okay.
Donc, je regarde mes mails. Ça, c'est vraiment la première mission du lundi. Et alors, figure-toi que moi, j'ai banalisé tous mes lundis matin.
Okay.
Parce que comme on a une grosse communauté de bénévoles, je reçois beaucoup de mails le week-end. Donc, le lundi matin, c'est mail, travail de fond, histoire de, voilà. Commencer la semaine, non pas avec du retard, mais...
Ok, tu tries, tu filtres, tu lis...
Je réponds, j'essaye de me débarrasser, parce que sinon je l'accumule, et clairement le vendredi soir, je finis à 23h.
Et ça tombe à la trappe au bout d'un moment, malheureusement.
Tout à fait. Et donc ça commence comme ça, lundi, ça me va bien d'être dans un bureau un peu motivé, un gros café à côté.
Ouais.
Et puis ensuite, déjà avec l'équipe, on est trois à Paris, on est cinq salariés ensuite dans le reste de la France, mais trois à Paris, super équipe, donc on se prend un déj, se raconte le week-end,
on remet
un pied dans le week-end un petit peu en se racontant nos deux jours
passés. C'est un déj hybride, taf, loisir quoi.
Et puis après l'après-midi on enchaîne, donc moi je fais beaucoup de calls, donc en général dès le lundi après-midi on est reparti quoi.
Ok, et petite question, les deux autres qui sont effectivement sur le territoire national ailleurs, est-ce que vous vous retrouvez de temps en temps pour, je dirais, des moments en physique un peu plus, différents, Lyon ?
Carrément, donc elles sont basées à Nantes et à Lyon, on se retrouve, on essaye de le faire au moins une fois tous les deux mois.
Ok.
Après, elles sont beaucoup en déplacement, puisque leur travail aux deux, c'est vraiment de développer les territoires des Bureaux du Cœur, une à l'est, une à l'ouest.
Ok.
Donc, ça implique énormément de déplacements.
Ouais.
Donc, bon, Paris, c'est pas dans leur liste 1, enfin, la priorité
bien sûr,
de leur déplacement. Mais pour autant, c'est vrai que, bon, tout ça n'est que très récent, puisque donc Justine est arrivée en septembre 2023 et Hélène est arrivée en janvier 2024. Donc, on n'a voilà, pas beaucoup de
c'est
recul encore.
Ouais, 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 ouais.
Mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'organiser un séminaire, le premier séminaire de Bureau du Cœur.
J'avais l'impression que tu dis séminaire, avec, tu vois, parce que tu trouves qu'à 5, c'est pas un vrai séminaire, mais pas
et
du tout.
Au contraire,
fait,
ouais, au contraire, c'est juste que c'était le premier, donc c'était waouh, on fait un séminaire. On est devenu suffisamment. Parce qu'avant, j'étais toute seule. Donc, clairement, si j'avais organisé un séminaire, ça aurait eu aucune gueule.
Non, mais il y a quelque chose dans le mot séminaire aussi qui fait vachement sérieux.
Exactement.
Putain, c'est un séminaire, les gars.
On a organisé le séminaire de l'équipe.
Ouais.
C'est c'était exactement ça. Et donc, on l'a fait chez moi, parce que moi, je vis entre Paris et la Normandie.
OK.
Il y a maintenant 3 ans, en 2021, avec mon frère, ma sœur et mon mec, on a acheté une maison qu'on a complètement rénovée, etc. C'était un projet un peu alternatif dans nos vies. Et donc, je leur ai proposé de faire ce séminaire au vert, chez moi, en Normandie, qui se prêtait finalement assez bien à l'événement. Ouais.
C'est dans quel
super
coin
cadre. C'est dans le Perche, dans l'entrée du Perche.
Ok, ok, d'accord.
D'une vraie parisienne.
Non, mais moi, je dans la Normandie, je suis très souvent en Normandie, mais je ne suis pas vers le Perche, je suis plus vers le Nord. Mais c'est un bon coin, je trouve, pour un séminaire pour se mettre au vert comme ça. Je trouve que c'est une bonne alternative.
La chance qu'on avait, c'est que c'était, je crois, le 10 janvier, quelque chose comme ça. Ça a été les 3 jours de neige qu'on a habituellement. Donc, la maison et tout le paysage étaient recouverts de neige. C'était assez incroyable. Enfin, c'était un paysage que j'avais jamais vu non plus.
Bien sûr.
Donc, on était tout de suite projetés dans une espèce d'ambiance un peu féerique qui a été super fertile, tant professionnellement que qu'humainement.
Bien sûr.
On ne connaissait pas tant depuis le début. Et donc, ça a été vraiment une chouette occasion tartif et bon vin rouge.
Voilà, c'est ça pour bien commencer l'année. Bon, top, je te propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, même si on y était déjà. Moi, j'ai quand même une petite question. Je regardais ton parcours qui est assez riche, en tout cas. Il y a pas mal d'expériences. Je ne vais pas revenir sur les VIE. Ça ne s'appelle plus un VIE, peut-être, je ne sais plus. Juste toi, avant d'arriver au Bureau du Cœur, on retrouve quand même des... Je dirais pas que de l'associatif, mais il y a une notion de mission, ou en tout cas d'utilité, qu'on voit revenir sur toutes ces expériences-là. Qu'est-ce qui t'a drivé, en fait, dans ces expériences-là? Tu t'es dit, faut que je monte un restaurant alternatif, je te dis une bêtise. Tu vois, c'est pas les Bureaux du Cœur, mais c'est une autre asso, etc. Comment tout ça s'est fait, en quelques mots?
Ouais. Je pense que ça vient pas de d'il y a quelques temps seulement. Enfin, en fait, je pense quand même être moi-même née dans une famille très engagée.
Okay.
Donc, c'était quand même quelque chose qu'on retrouve chez mon frère, ma sœur, mes deux parents. Enfin,
d'accord.
Voilà, on est quand même.
Ils sont des marqueurs familiaux importants.
Importants. Mes deux parents sont syriens, donc ils sont arrivés en France quand moi je suis née. Ma sœur elle-même et ma grande sœur est née en Syrie. Donc, on est arrivé en France avec. Je pense une vision de la France peut-être un peu différente de mes amis.
Parce
que, en fait, on avait quand même une origine étrangère. Mes parents se sont installés en France vraiment en se disant c'est là qu'on va y passer notre vie et c'est là que nos enfants vont y grandir. Donc, je pense qu'on a la chance, nous, d'avoir été super bien intégrés et d'avoir eu la volonté aussi que nos parents nous y intègrent. Et donc, il y avait de base un engagement au fond un peu comme de solidarité, peut-être de rendre un peu ce qu'on avait reçu en arrivant
sûr,
en France et puis aussi mes parents sont tous les deux de manière idéologique super engagés politiquement. Enfin, moi j'ai passé je pense de mes 5 à mes 12 ans en manifestation le samedi après. Enfin, pour nous c'était une sortie normale, on fait quoi cet après-midi, on va en manif,
ok, trop cool.
Donc moi j'étais sous les drapeaux, sous les trucs. C'est mon souvenir de jeunesse. Donc je pense que inévitablement ça forge.
Complètement.
Et c'est assez marrant parce que, à l'inverse, mes parents étaient quand même, je pense aussi, parce que pas français d'origine, donc ils avaient envie qu'on évolue quand même convenablement en France, qu'on puisse s'épanouir et inévitablement aussi qu'on s'enrichisse un peu. Ils nous ont quand même beaucoup poussé à faire des études. Enfin, ça
il y avait cette notion, tu vas voir, il faut que tu aies un socle académique pour
donc,
faire un peu ce que tu veux.
Et donc,
il
faut faire des études, il faut être bon à l'école, machin. Et donc, en fait, moi, j'ai poursuivi un peu cette ambiguïté en entrant jusqu'en école de commerce, où je me posais pas vraiment la question.
C'était un peu le truc où ils ont dit, vas-y, fais ça, t'inquiète, derrière, ouais. Tu peux faire un peu, vas-y.
Mais eux, c'était juste, si tu fais des études, tu fais ce que tu veux, mais va jusqu'au bout et fais le bien.
Ah, okay.
Et moi, à chaque fois, je me disais, je sais pas ce que je vais faire. Donc, je me laissais toujours les portes ouvertes. Ouais. Je choisis la filière scientifique parce qu'on te dit, bah, ça, c'est la voie royale, tu peux faire ce que tu veux après. École de commerce, bah, ça, tu peux faire ce que tu veux après, etc. Donc, j'ai toujours fait, mais même en école de commerce, après, j'ai fait un magistère de sciences de gestion. Donc, ça, c'est un nom quand même assez incroyable.
Non, mais en fait, c'est ultra général.
Super large. Ouais, j'ai fait autant de finances, du market, de la com. Mmh. Je suis sortie de là en me disant, mais du coup, je fais quoi en fait? Enfin, concrètement, je suis formée à tout, mais à rien.
C'est un classique, pas exactement.
Et là, tout de suite, je me suis un peu pris la claque de, mais je vais pas aller bosser, je sais pas, faire du conseil pour un truc auquel je crois pas. Donc, je me suis dit, ok, conseil en service public, je sais pas trop. Enfin, ouais. Et j'ai commencé comme ça à toucher différents trucs. Donc, ouais. C'est pour ça aussi que mon parcours est assez linéaire, oui, mais j'ai testé de la com, je faisais de la com pour, alors, j'étais chez JC Deco. Donc, tu vois, en termes d'engagement, c'est relatif.
Ouais,
mais c'était pour la promotion des vélos en libre service.
C'est ce que j'allais dire, c'était à l'époque
c'est
de Vélib, ça. Ouais.
Exactement. Donc, moi, c'était, super, on va aller mettre tout le monde au vélo pour une ville plus durable, etc. Bon, après, j'avais toujours, à chaque fois, je faisais un pas en avant, puis je me disais, ah non,
c'est
en
pas
fait,
ce que je veux faire.
J'ai pas envie parce que, au fond, JC Deco, ils développent les vélos en libre service, mais c'est pour mettre plus de pubs aussi après dans les villes.
Enfin, exactement.
Et donc, à chaque fois, je faisais un pas en avant, un pas en arrière, en me disant, bon, ça, c'est pas pour moi.
Ouais, mais c'est important. C'est ce que l'école aurait dû t'aider à faire, et finalement, c'est ce que ton expérience professionnelle t'a permis de faire.
Carrément. Et je suis partie à l'étranger en me disant, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Là, je voulais vraiment faire de la com. Je me disais, pourquoi pas la bouffe? Je trouvais ça cool. Je trouvais que c'était un moyen de fédérer aussi les gens, etc. Je travaillais pour une boîte qui cherchait à promouvoir les produits agricoles français. Donc, je me suis dit, bon, c'est sympa. Mais en fait, pas du tout mon truc, parce que c'était vraiment là, faire de la com pour améliorer les exportations françaises.
Ouais, okay, ouais.
Et là, je me disais, bon, là, pas du tout. J'étais à Singapour. Je pense que pour moi, ça a été un vrai déclic, Singapour. Mmh. C'était de me dire, mais c'est tout ce que je ne veux pas vivre. Mmh. Un pays super individualiste où règne la terreur.
Mais c'est des dictatures. Après, c'est très, très
république
propre,
autoritaire. Pardon,
excuse-moi. Oui, tout à fait. Je me souviens, moi, j'y suis allé. J'ai eu quelques souvenirs assez cocasses, effectivement, là-bas. Oui, je comprends ton... Je sais ce que je veux pas, quoi.
Ouais. Et en fait, je suis rentrée de là, et c'est là, je pense que ça a été vraiment un déclic pour moi, puisque je suis rentrée, et je me suis dit, je veux m'engager. Quelle qu'en soit la forme, je veux m'engager. À ce moment-là, j'ai monté une première asso, avec le mec avec qui je partageais ma vie à l'époque, où on a décidé de créer un espèce de... On voulait que ce soit un restaurant solidaire, on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas à monter un resto, etc. Mais c'est devenu une asso qui, en fait, montait un resto éphémère dans la rue et qui accueillait, en fait, sur des grandes tablées, tout type de public, à prix libre. Et l'idée, c'était de pouvoir mélanger les populations pour créer du lien et, en fait, limiter aussi le gaspillage alimentaire, puisqu'on n'utilisait que des produits invendus, etc. Donc, on avait tout un cercle vertueux d'un projet qui fonctionnait super bien. On n'a pas décidé d'en vivre parce que c'était pas non plus en plus la préoccupation qu'on avait envie d'apporter sur ce projet associatif. Mais donc, c'est là où j'ai quand même posé la première pierre de je sais ce que j'ai envie de faire.
Là où t'as trouvé ta place en fait, dans ce projet-là. Tu t'es dit, ok, c'est ça. Après, ça
me parle.
Les autres projets dériveront peut-être de ça d'une manière ou d'une autre. Mais
j'ai vraiment senti l'espèce de flamme intérieure de me dire, mais là, ce que je fais, je suis prête à me lever tous les matins et à me mettre au boulot pour ça. Quoi.
Et après,
il a fallu que je trouve un boulot. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais aller dans un truc à impact. Les assos, j'avais l'impression que c'était pas forcément mon monde. Enfin, j'étais quand même un peu issue du milieu de l'école de commerce. Donc, j'allais dans un business à impact. Je suis entrée chez Too Good To Go.
Ouais, c'est ça.
Donc, dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça a été une expérience super enrichissante parce que j'ai appris énormément, comme dans les startups qui grossissent. Enfin, moi, quand je suis arrivée, la boîte avait un an et demi, elle décollait à peine en France. Mmh. Je me souviens qu'on écrivait encore sur les vitres le nombre de paniers qu'on avait sauvés le jour même en se disant « Ouh là là, on a 500 !» Enfin,
il y avait une énergie,
émulation qui était hyper sympa. Et moi, j'avais cette fibre... parce que, pareil, en termes de métier, je savais pas forcément ce que j'allais faire. Je suis rentrée en tant que commerciale. Au bout de 3 mois, je leur ai dit, mais moi, répéter la même chose à des commerçants au téléphone, vraiment, je
ouais, c'était pas du tout mon truc,
pas du tout mon truc. Et donc, j'ai commencé à travailler sur tout le développement de projets qui allaient, en fait, éventuellement pouvoir développer l'usage de Too Good To Go, que ce soit, par exemple, dans les sites qui sont inaccessibles au public, les stations-service, comment est-ce que dans une gare, on lutte contre le gaspillage alimentaire, comment dans un aéroport, on lutte contre le gaspillage alimentaire. Et un peu plus tard, du coup, j'ai commencé à développer toute la partie industrielle.
Okay.
Comment on aide les industriels à sauver, finalement, leurs produits qui vont finir à la poubelle, parce que c'est d'autres problématiques. On ne parle pas de commerce qui a pignon sur rue. on parle de volumes hyper importants, on parle de volumes qui ne se situent pas dans les centres urbains. Donc, comment est-ce qu'on fait pour contourner ces problématiques-là? Donc, j'ai travaillé pour eux pendant 2 ans et demi, ce qui a été hyper intéressant. Puis, genre, je suis ressortie un petit peu épuisée. La start-up, pour moi, c'était hyper intense.
Oui, c'est très engageant au niveau de... Voilà, de...
Émotionnellement, ouais. Personnellement, voilà, j'avais beaucoup donné. Le Covid, je pense, a assez accéléré le truc où, en fait, arriver au confinement dans mes 40 mètres carrés avec mon mari actuel qui était mon collègue de chez Too Good To Go. Donc, ça a quand même été une belle rencontre. On s'est dit, on a envie d'autre chose. Ouais. On est jeunes. Viens, on tente autre chose, quoi. Et à ce moment-là, on est parti. Et là, ça a été... On a eu 2 ans. On a eu la chance, du coup, d'avoir 2 ans où on a pu faire vraiment autre chose. Puisque on a commencé en se disant, on va voyager. Trop cool. Maintenant que le Covid est un petit peu derrière nous, été 2020, on va pouvoir voyager. On a acheté notre premier van qu'on a aménagé en se disant, bah, c'est cool, avec
des
petits moyens, on va vivre dedans. On a rendu notre appart et on s'est dit, on va faire le tour de la France. J'ai pas aimé.
Non. On pensait là, tout est arrivé l'idée de Camtar.
Exactement.
Non, mais tu t'es dit, ok. Non, mais c'est génial parce que tu te dis, c'est quoi les trucs que j'aime bien, mais c'est quoi les trucs que j'aime pas? Là, tu t'es dit, non, pas moyen, quoi.
En fait, vivre dans un camion. Bon, nous, on avait un camion méga sommaire, donc pas de douche, pas de frigo, enfin, pas d'électricité. Un camion, quoi, qu'on avait aménagé de manière très jolie. Alors, il y avait toutes les guirlandes qu'il fallait, mais...
Il y avait un petit matelas, machin.
Ouais, ouais. Un lit confortable, quand même.
Ouais.
Mais au fond, le voyage de tous les jours, t'es en mobilité, tu te demandes où est-ce que tu vas dormir le soir, c'est... Enfin, c'est marrant, parce que c'est une phrase qu'on utilise beaucoup dans les bureaux du quart de... On ne peut pas poursuivre un parcours si on se demande tous les soirs où est-ce qu'on va dormir. Bon, nous, on était dans un autre contexte, je te l'accorde, mais c'est un petit parallèle assez marrant.
Complètement.
Et effectivement, en fait, je trouvais qu'on était quand même dans un inconfort permanent, mais non pas l'inconfort de on dort mal, parce que pas du tout.
Non, c'est juste de dire c'est quoi le point de chute.
Et puis c'était quoi là, la fin en fait, parce qu'on n'avait pas de retour au boulot, plus d'appart, et moi ça m'a un petit peu angoissée. Et à ce moment-là, on s'est dit, bah, déjà on va rentrer chez mes parents, papa et maman, Paris 17. On va se poser un peu.
Et ils ont accepté.
Ils ont accepté. Mes parents sont vraiment
sympa.
Des gens adorables.
Ah, ils sont branchés famille.
Et en fait, on avait notre camion qu'on a garé dans le 17e, pas pratique du tout. Et on s'est dit, bah, en fait, on pourrait le louer. Parce qu'au fond, il y a peut-être des gens qui veulent louer un camion. Ouais. Nous, quand on avait cherché à en louer avant d'en acheter un...
C'était galère.
On ne trouvait pas. C'était méga galère. Enfin, il fallait aller, je ne sais pas où, tu vois, un peu en province pour en trouver. Donc, on s'est mis, bah, on va le mettre sur une plateforme. Et alors là, tac, le truc qui... Enfin, on se fait harceler. Est-ce qu'on peut vous l'acheter? On veut le même, machin. Et donc, on s'est dit, bah, trop bien. On a peut-être trouvé un truc.
Parfait.
Et la semaine d'après, on avait acheté 2 camions. Et on s'est dit, bah, vas-y, on va y aller, quoi.
Et donc, vous louiez, tu louais
des camions? Pour le coup, là, on les a achetés. On s'est dit, on va tester plein de modèles.
Ouais.
Donc, les 2 premiers, on les a revendus.
Ouais.
On en a racheté d'autres. Et en fait, on les louait, slash vendait, slash... Enfin, voilà, on vivait un peu de cette activité qui était arrivée de nulle part. Enfin, sur laquelle on avait... Alors là, en termes d'expertise, absolument rien. Enfin, on avait appris à faire notre premier camion.
Oui, c'est ça. Donc, c'était du vécu, juste. Mais c'est déjà bien. Et au bout d'un an, vous vous dites... On arrête, c'est ça, ça a duré.
Bah ouais, mais c'était pas tant on arrête, c'est plutôt qu'on a été limité par la place parce que donc on les faisait, on a commencé à le faire. Le père de mon mec, enfin de mon mari, a un camping en Bretagne, donc trop cool. Très pratique pour le faire, mais on voulait pas s'installer en Bretagne pendant un an pour aller faire nos camions. Donc, on squattait chez des potes qui nous prêtaient leur maison de vacances et tout. Et c'est là que ce projet de maison en Normandie est apparu, où on s'est dit, bah, il nous faut un lieu pour faire nos camions, en fait. Et donc, on a réfléchi à 4 parce qu'on est plus riches qu'à 2. Est-ce qu'on pourrait pas s'acheter une maison pour faire nos camions? Sauf qu'on a acheté cette maison, super projet, qui nous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de travaux, beaucoup d'argent. Au bout d'un an de travaux dans la maison, on s'est dit, en fait, tu sais de quoi je rêve là maintenant?
C'est de me poser.
C'est d'être derrière un PC, lundi au vendredi.
Ouais, bien sûr. Et classique.
De retrouver un taf classique, quoi. Et on n'avait plus de thunes. Ouais. Donc on s'est dit, bah, ok, allez, c'est reparti, on fait un cycle.
Et là, tu as fait un cycle chez Solinergie.
Ouais, exactement. Donc moi, j'ai trouvé un taf chez Solinergie, fondation qui lutte contre la précarité énergétique, qui est rattachée à l'entreprise EFI, qui a été une opportunité de dingue, puisque bah, en fait, j'étais dans un parcours un peu peut le dire, alternatif.
Ouais.
Atypique, et j'ai été contactée par Solinergy, genre, est-ce que tu veux prendre la direction de notre fondation ? Nous, on était là, waouh, moi, vous êtes sûr ?
Ouais.
Et ça a été canon parce qu'ils m'ont fait confiance super vite. Donc, j'ai vraiment eu les rênes de la fondation. Mais j'étais frustrée d'être que dans une fondation. Donc, une fondation, je trouvais que c'était un peu le passe-plat de l'argent. Tu reçois de l'argent, tu vas le réinvestir derrière des associations que tu vas objectiver, etc.
Tu voulais quelque chose de plus concret.
Mais j'avais envie d'être sur le terrain, en fait.
Ouais, ouais.
J'avais envie de vivre avec ces associations-là, les problématiques, etc. Et pas juste de leur dire, ah, bah, vous avez fait quoi de nos 15 000 euros ok, super, ouais. Je vous renouvelle pour l'année prochaine, quoi. Et donc, j'en suis partie, mais j'ai pu, grâce à eux, du coup, développer un statut de freelance. Je me suis lancée en tant que freelance. Je travaillais notamment pour Solinergy. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu approcher d'autres assos et que j'ai notamment entendu parler des Bureaux du Cœur.
Ouais.
Je me souviens, j'étais en Normandie. Je faisais encore du bricolage ce soir-là.
Mmh.
Vendredi soir, 21h, j'entends une brève à la radio France Inter.
Okay.
Des entreprises ouais, accueillent dans leurs bureaux. Et là, je me dis, mais attends, c'est quoi ce projet de fou, quoi?
Enfin, ouais, bien sûr.
C'est incroyable de faire ça.
Là, t'entends Pierre-Yves.
Exactement. Ouais. Pierre-Yves Loaec à la radio. Vraiment, je me souviens, j'ai pris mon téléphone, noté son nom.
Tu te regardais, bien sûr, évidemment.
Et le soir même, je lui envoie un message sur LinkedIn, genre, salut Pierre-Yves, moi j'ai un peu bossé en asso. Enfin, c'est un sujet qui me parle énormément. J'ai du temps libre. Je veux absolument aider à développer les Bureaux du Cœur. Je suis à Paris, je sais que vous n'y êtes pas. Est-ce qu'on peut se rencontrer et en discuter ? Il m'a appelé le soir même.
Ça, c'était en fin 2021.
Fin 2021, ouais. Exactement. Ouais. Il m'appelle le soir même, on discute, on s'entend super bien.
Ouais.
On parle des problématiques, de ce qu'il voit de l'association. Et vraiment, bon fit. Enfin, tu sais, c'était pas un entretien, quoi. C'était juste...
Ouais, une discussion informelle, quoi.
Ouais.
Où on s'aperçoit qu'on est aligné, quoi.
Ouais, où on est aligné, où en fait on se comprend. Enfin, moi je viens du monde de l'entreprise comme lui. Lui, c'est un entrepreneur, il a monté une agence de communication à Nantes. Je viens aussi du monde de la communication, c'est con, mais je pense qu'on a des liens qui se tissent entre nous. Et je lui dis, accessoirement, moi tu sais, je bosse pas, je fais du freelance, etc. Donc, j'ai déjà accompagné notamment Solinergy à se structurer, à se développer. On pourrait faire la même chose avec les Bureaux du Cœur. Il me dit, écoute, Kinda, ça tombe bien, mais on n'a pas d'argent. On vient de démarrer. On n'a pas commencé à rechercher du financement, donc à voir quoi. Et je lui dis, mais ça, c'est pas un problème en fait, on peut construire ça ensemble et voir là où ça nous mène. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, à ce moment-là, en parallèle, fin 2021, la Fondation de France nous identifie comme un projet qui caractérise comme un acteur clé de changement.
Ouais.
Et ils nous disent, rejoignez notre programme Inventer Demain. Et on a été financé une belle somme, financement pluriannuel sur 3 ans.
Ah ouais.
Donc, une capacité soudainement de se dire, OK, on est une asso, il y a 0 salarié, mais on va peut-être pouvoir construire un truc autour de ça, quoi.
OK, c'est là où vous vous dites, on bosse ensemble, quoi.
Ouais, un mois plus tard, il me dit on peut tester un truc. T'es dispo à quelle fréquence ? Je lui dis commençons par un jour par semaine et on verra bien. Je lui ai dit ça en me disant comme ça, ça l'engage pas trop. Moi, j'en faisais 6 par semaine en me disant.
Ah, mais c'est ça, ouais.
Parce que pris dans le truc, en fait.
Ouais.
Et puis parce que tout le monde était bénévole. Donc, en fait, moi, je me disais, je peux très bien faire un jour de...
Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tu disais, je suis un jour payé, 4 jours bénévole.
4 jours bénévole, c'est pas grave.
Ça a du sens, en fait.
Ouais. Ça a du sens. Bon, économiquement, un petit peu moins.
Ce que je voulais dire.
Au bout d'un moment, je lui ai dit, économiquement, en fait, ça tient plus parce que je peux même pas trouver de boulot à côté parce que, en fait, je donne tout pour les Bureaux du Cœur. Et à l'inverse, si j'arrête tout ce que je fais pour les Bureaux du Cœur, il risque d'y avoir un peu une problématique. On sait qu'on va devoir aller dans ce sens-là.
Ouais, bien sûr.
Donc, allons-y direct. Et c'est comme ça que donc fin 2022, après avoir j'étais en freelance donc initialement en 2022 et fin 2022, il me propose de prendre le poste de directrice générale de l'association. J'ai encore fait le quoi moi ?
Ouais, t'as un petit imposteur.
J'étais toute seule, j'étais seule freelance, seule personne qui est vrai pour le bureau du compte. Donc, au fond, c'était aussi.
Bon, on en reparlera quand vous serez peut-être 10 fois plus nombreux dans 5 ou 6 ans, tu vois, mais. C'est le titre de directrice générale qui te fait sourire.
Ouais, à chaque fois.
Ouais.
Générale, je sais pas de quoi, directrice à la rigueur.
Oui, t'as raison, il y a peut-être un verbatim à trouver qui serait peut-être un peu plus avec une notion de moteur ou de pilote, peut-être. Quel est le rôle et la mission intrinsèque des Bureaux du Cœur aujourd'hui ?
Ouais, la mission des Bureaux du Cœur, c'est de faciliter l'insertion de personnes en situation de précarité en leur mettant à disposition, le soir et le week-end, pendant 3 à 6 mois, un espace dans une entreprise.
Le discours est vachement rodé quand même, c'est bien. Mais alors concrètement, je le dis parce que moi, je l'ai vécu chez Yemanja. Donc on a des gens que vous, vous appelez les invités. Moi, je fais à l'envers, tu sais, je fais toujours un peu les questions dans mon sens. Pourquoi vous appelez ça des invités ? Ça vient d'où en fait ?
Ça vient de Pierre-Yves Loeck, déjà, faut ouais. dire. C'est lui qui a trouvé ce terme. On parle souvent, notamment par exemple avec la Fondation de France, de l'importance de la sémantique. Et très souvent dans le milieu social, on parle de bénéficiaires, donc de gens qui bénéficient de
c'est
quelque chose.
C'est très administratif, quoi.
C'est très administratif, mais c'est surtout très passif. C'est des personnes qui, en fait, vont bénéficier d'un service, d'une offre, de machin. Nous, on voulait que ce soit des bénéficiaires concrètement qui en bénéficient, mais on ne voulait pas. On voulait pas déjà les mettre dans cette case-là.
Ouais.
Et puis par ailleurs, on voulait que dans cette sémantique, on puisse comprendre que on veut une relation qui soit volontairement non réciproque. C'est une personne qui est invitée dans des bureaux, okay. donc on ne lui demandera aucune contrepartie.
Mmh.
Un invité, c'est quelqu'un qui vient et que si tu m'invites chez toi, tu me demanderas pas de faire le ménage, tu me demanderas pas de faire ta vaisselle.
A priori.
Tu me demanderas à la rigueur d'enlever mes chaussures, mais c'est ce que tu peux exiger hein, d'un invité. Et là, vraiment, pour nous, c'était hyper important de se dire, c'est une personne qui est invitée, à qui on ne demande aucune contrepartie. Pas de contrepartie de service, pas de contrepartie de financière, évidemment. C'est une personne qui est littéralement invitée dans nos bureaux.
Merci pour cette précision. Je trouve qu'elle était importante. Moi, j'aime bien effectivement la notion de sémantique. Cet invité, il est accueilli dans certaines entreprises. On va y venir le soir et le week-end. Ça veut dire que le soir, il est en toute autonomie et il croise probablement les collaborateurs. En revanche, le week-end, il est complètement seul dans l'entreprise. Est-ce que ça a été et c'est peut-être un frein pour des boîtes justement de se dire, bah en fait, la semaine c'est pas un problème puisqu'on est là et le week-end, du coup, il est un peu laissé à seul dans l'entreprise.
Alors l'invité, il a invité le soir, mais la nuit aussi.
Oui.
Puisque donc il s'agit de 18h à 9h du matin, donc la problématique est plutôt moins équivalente la nuit et le week-end.
Ouais.
Donc à partir du moment où on accepte de faire confiance à quelqu'un et de lui laisser la disposition de nos bureaux, que ce soit de 18h à 8h ou l'intégralité du week-end, ça n'a pas été un frein particulier.
Ouais.
Et au contraire, en fait, finalement, et c'est la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, comme je te l'expliquais tout à l'heure, on ne démarche pas des entreprises. C'est des entreprises qui viennent à nous parce qu'elles entendent parler du projet des bureaux du cœur et qu'elles se disent, en fait, je peux le faire.
Ouais.
Mes bureaux ne sont occupés que 30% du temps. C'est la majorité des bureaux en France. Ils sont occupés de 8h à 18h à tout casser. Puis le reste du temps, c'est des espaces qui sont complètement inutilisés, qui sont souvent climatisés l'été et chauffés l'hiver. Pour rien et pour personne. Et donc, c'est cette posture-là que les entreprises nous disent, en fait, j'aimerais pouvoir mettre à contribution mes bureaux. Et au contraire, du coup, il y a plutôt cette fierté d'être utile, mettre ces bureaux à contribution et de les rendre même utiles pour une personne la nuit et le week-end.
Alors, je l'ai vécu, entre guillemets, en tout cas, j'en ai déjà discuté avec Quentin, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que c'est complexe pour une entreprise, finalement, de vouloir accueillir quelqu'un ? Parce que on parle quand même d'avoir... c'est marrant parce que, clin d'œil à Clément Alteresco, entre autres, on enregistre chez Morning Lafitte, où il y a également un invité qui se trouve juste, pas très loin du studio dans lequel on enregistre. Quelle est au-delà de la volonté d'une entreprise, et chapeau d'ailleurs le fait que vous n'ayez pas besoin de chercher mais que ça vienne, je trouve que c'est un signal fort en fait sur ce qui est en train de se passer. Quel est le défi pour l'entreprise de se dire en fait j'ai envie de le faire, mais oui j'ai effectivement une partie de mon espace qui n'est pas attribuée pour telle ou telle raison, mais quelle est la configuration que je dois mettre en place pour recevoir de manière c'est pas qualitative le mot que je cherche, mais de manière normale une personne, c'est-à-dire avoir un point d'eau, une douche, un lit, table de nuit, etc. Quelles sont les configurations, les contraintes?
C'est assez simple, il y a 5 prérequis, donc facile à retenir. Et finalement, c'est ce que compose un appartement hein, quand on y réfléchit. C'est un coin nuit. Donc, typiquement ici, chez Morning, c'est une pièce qui est mise à disposition, qui initialement était utilisée comme espace de stockage, qui était plutôt confortable, qu'ils ont réaménagé pour que, en fait, il puisse y avoir un lit, une armoire, pour que l'invité puisse utiliser ses affaires. C'était le deuxième élément. Des sanitaires, évidemment, ce qu'on trouve très facilement en entreprise. Mmh. C'est une obligation légale. Un petit coin cuisine avec le minimum, des frigos, un micro-ondes pour se faire réchauffer son repas le soir.
Je pose des questions cons, mais ça peut être éclaté dans le lieu.
Bien sûr. Okay. Typiquement, ici, il y a la pièce qui est juste ici avec l'armoire. Au rez-de-chaussée, il y a le petit coin cuisine, qui est d'ailleurs un coin cuisine partagé par l'ensemble des personnes qui circulent dans le bâtiment. Mm-hmm. Donc, c'est pas un coin qui est dédié. Les sanitaires au bout du couloir. Enfin, ouais. Après, voilà, ça reste grand appartement, c'est vrai. Ouais. Mais ça reste comme dans un appartement où tout n'est pas dans la même pièce. Et heureusement, d'ailleurs. Et le dernier élément, c'est une douche. Donc, ce qui peut être l'élément qui pose le plus de problèmes, puisque toutes les entreprises
finalement,
n'ont pas encore
le
de
moins
douche.
Quand même dans les bureaux.
C'est ça.
Mais
Et encore que de plus en plus d'entreprises ont installé des douches parce que leurs salariés voulaient faire du sport à midi, viennent en vélo de très loin, etc. et ont envie de pouvoir prendre une douche le matin. Et pour celles qui n'en avaient pas et pour lesquelles c'était compliqué d'en installer une, parce que beaucoup ont décidé de convertir un bloc sanitaire en douche en se disant ça pourra bénéficier aussi à mes salariés.
Bien sûr.
Je le fais pour l'invité, mais aussi pour mes salariés. Et pour celles qui pouvaient pas le faire, après, c'est vraiment nous notre travail aussi d'accompagnement, d'aller identifier dans les voisins, les entreprises à proximité, éventuellement aussi trouver une association partenaire qui pourrait mettre à disposition la douche sur une plage horaire suffisamment large pour le confort de l'invité pendant toute la durée de l'accueil.
Et ouais, mais du coup, alors, on saute un peu du coq à l'âne, mais au-delà de la mission intrinsèque, il y a une palette, je dirais, de domaines d'intervention des bureaux du cœur qui est finalement assez large, puisqu'en fait, elle doit aussi aider à organiser, je dirais, la configuration dans les bureaux, trouver la personne, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, juste de toute la chaîne de valeur, même si c'est pas le bon mot.
Moi, j'aime bien ce terme. Parce que c'est vrai je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, puisque on avait souvent eu au début cette posture on avait l'impression de demander aux entreprises beaucoup.
Ok.
Et donc, il y avait ce truc de on demande aux entreprises déjà de faire ça, de faire ça, etc. Parce qu'il y avait une notion autour de l'adhésion, les entreprises adhèrent au bureau du cœur et pour nous, c'était on leur demande déjà tout ça, on ne va pas en plus leur demander de payer. Sauf qu'effectivement, il y a une chaîne de valeur. On les accompagne du début à la fin de manière super professionnelle puisque tout a été très processé. Dans un premier temps, on vient visiter l'espace. Nous, on a vraiment l'œil aussi parce que ce n'est pas naturel pour tout le monde. La plupart du temps, on nous propose des espaces et on ne pense pas qu'il faut installer un rideau occultant parce que,
c'est une notion privative,
on va dormir.
Ouais, un espace
privatif. Par exemple, on a une belle baie vitrée devant nous qui donne sur un espace commun. C'est super, mais c'est bien aussi de pouvoir le rendre privé pour que, en fait, les personnes puissent se sentir à l'aise dans les espaces. Enfin, voilà. Nous, on a vraiment notre regard bureau du cœur qui est là, donc sur la première partie d'accompagnement sur l'aménagement. Et sur le reste de l'accompagnement, on fait surtout un accompagnement juridique puisque la mise en place des bureaux du cœur, ça demande une validation de l'assureur de l'entreprise qui doit couvrir l'invité au même titre qu'elle couvre un salarié. On fait ça pour protéger autant l'entreprise que l'invité. Si jamais il se passe quoi que ce soit, personne ne pourra se retourner contre l'invité en lui clamant sa responsabilité.
Et ça veut dire que, pardon, je te coupe parce que moi, je vais complètement oublier mes questions après. Ça veut dire que toi, tu deals avec l'assureur de la boîte en question ou tu les rapproches d'un autre assureur? Non, c'est
de la boîte en question.
De la boîte en question. Et c'est un problème souvent ou...
Oui.
C'est un peu technique.
C'est un peu le problème. C'est un vrai problème, mais pour autant, un problème qu'on prend... On a pris le taureau par les cornes. On est super content d'avoir signé notre première clause bureau du cœur, qui est donc une clause qui s'ajoute sans surcoût à tous les contrats AXA.
Okay.
Donc AXA aujourd'hui était la première assureur à nous dire, en fait demain toutes les entreprises qui sont assurées chez nous, elles peuvent ajouter cette clause à leur contrat et les invités comme les entreprises seront couvertes. Quelle que soit la situation d'incident ou d'accident qui peut intervenir dans les bureaux.
Ça me paraît pas, je suis désolé, mais ça me paraît pas si fou dans la mesure où si tu transposes ça à l'époque des Blablacar, quand tu loues ta bagnole, etc.
Getaround,
merci, pardon, tu dis mieux que moi. Ce que je veux dire, alors peut-être qu'au début ça avait été une galère, mais et AXA, juste par curiosité, c'est parce qu'au bout d'un moment, c'était pas mal d'entreprises qui demandaient qui étaient chez AXA et donc les mecs ont dit au bout d'un moment, vous inquiétez pas, ça marche. Pas de problème, on vous suit.
Non, alors là-dessus, on a été très proactifs.
Où t'es monté
On est allé voir AXA et c'est pas moi, c'est notre trésorier Laurent Devrazine qui lui-même est courtier en assurance.
D'accord.
Et donc, a décidé d'aller voir toutes les assurances une à une. AXA était la première à flancher. depuis, il y a Allianz qui a donné pour l'instant son accord oral pour qu'on mette en place cette clause aussi. Et on va aller voir, en fait, toutes les autres assurances. On est déjà allé les voir. Ouais. On va les poursuivre pour faire en sorte que, effectivement, toutes les assurances acceptent la mise mise en place des bureaux du cœur.
Mais il faut être plus gnasse, quoi, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ouais. Un vrai travail.
Donc, pardon, je t'ai coupé, on revient sur... Donc, tu as cette notion d'assurance. Donc, la première démarche, c'est d'aider les entreprises, effectivement, à s'assurer que ça rentre, effectivement, dans leur police d'assurance, ce genre de choses, au même titre que n'importe quel collaborateur, OK.
Et puis, on s'assure aussi que le bailleur, donc le propriétaire du bâtiment, puisque la plupart des entreprises sont locataires, que le bailleur accepte aussi la mise en place du dispositif pour éviter qu'une entreprise puisse se voir remettre son bail en question parce qu'on est sorti du contrat.
Ouais.
Pareil, compliqué.
Ouais, à ce point-là.
Donc c'est simple, mais c'est complexe. Mmh. C'est très simple sur la vision, sur la notion, sur comment on aménage son espace, sur le c'est du bon sens.
Ouais.
Mais ça peut rester complexe sur des problématiques juridiques. Et ça, c'est vraiment tout notre travail aujourd'hui d'aller en fait plus vite que ces bailleurs, plus vite, c'est plus loin que ces assureurs pour en fait les convaincre en amont de ces éventuels obstacles et freins.
Et alors, quels sont les à la fois pour les, enfin. Quels sont les arguments à la fois pour les assureurs et pour les bailleurs, justement, de leur dire en fait nous on a plein d'histoires, ça s'est toujours bien passé, donc voilà, il y a ça, hein, c'est
y a ça,
un bon
ouais.
argument.
Et en fait, je crois que le jour où AXA a changé d'avis, enfin a décidé vraiment de nous suivre, ça a été le jour où AXA s'est rendu compte que finalement, accueillir dans ses bureaux le soir et le week-end, c'était diminuer les risques du bâtiment. Puisqu'en fait, on a une présence en permanence, même si c'est un invité et que c'est une personne qui est accueillie, c'est une personne qui vit dans les bureaux et donc il y a la petite lumière qui est allumée le soir et donc en fait, on diminue le risque d'effraction. Et puis par ailleurs, c'est aussi quelqu'un qui pourrait prévenir en cas de départ d'incendie, donc qui est présent en fait dans ces bureaux-là quand personne n'y est.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment quand AXA s'est rendu compte en mesurant les risques qu'accueillir, ça diminue les risques, qu'ils ont décidé de nous rejoindre. Donc,
j'entends effectivement. C'est pas donnant-donnant, mais bon, il y a un intérêt finalement. C'est pas malheureusement.
C'est des externalités positives.
Voilà, externalités positives. Quand tu te dis bien, tant que ça accélère la démarche, moi je trouve que c'est magnifique.
Bah, Pierre-Yves était le premier à nous dire, moi j'y avais jamais pensé, mais en fait, savoir qu'il y a quelqu'un qui dormait dans mes bureaux, moi ça me permettait de mieux dormir le soir parce que je savais que mes bureaux étaient gardés, quoi.
Non, mais c'est vrai que c'est un truc tout bête, mais oui, tant que ça accélère la démarche, très bien. Pour trouver ces invités-là, aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous entourez d'autres associations? Est-ce que c'est des associations qui viennent vers vous? Comment ça se passe?
Ouais. Les bureaux du CAR, effectivement, c'est finalement un médiateur dans une relation tripartite, une relation entre l'organisation hôte. Donc, nous, on parle maintenant d'organisation, puisque ce sont autant des entreprises que ça peut être des organismes publics, des structures, des associations, etc., qui veulent accueillir. Relation tripartite entre l'entreprise ou organisation, un organisme partenaire et l'invité. L'organisme partenaire, donc, qui peut être autant une association partenaire que maintenant, depuis peu, des organismes publics, qui nous redirigent des publics qu'elles le suivent, ce sont ces structures qui, elles, vont identifier des personnes selon un certain nombre de critères avec lesquels, qu'on a exposés, avec lesquels, on a signé une convention, donc on est d'accord sur le principe des profils qui peuvent être redirigés pour les bureaux du cœur. Et donc, ces organismes partenaires nous proposent des personnes qu'elles suivent, qu'elles accompagnent, qu'elles connaissent, pour être accueillies dans le cadre des bureaux du cœur. Et tout au long de cet accueil, elles vont poursuivre leur accompagnement pour faciliter, accélérer leur insertion, parce qu'on n'a déjà plus cette question de poser du logement. Et donc, on travaille effectivement avec des organismes. Ça peut être autant des organismes qui œuvrent dans l'accompagnement public en précarité, des classiques comme des moins classiques, mais des Croix-Rouges, etc. Comme autant des structures qui travaillent dans l'insertion par l'activité économique. Donc, on travaille beaucoup avec des chantiers d'insertion et on est super complémentaires, puisqu'effectivement, c'est des structures qui vont favoriser l'insertion de ce public-là grâce à l'emploi. Et quand il y a des problématiques de logement, en général, ça finit toujours par pêcher. Donc, nous, on vient arriver en complément.
Palier.
Et pendant cette période d'insertion, on a sécurisé la situation de...
Parce que la situation globalement qui est rencontrée, c'est justement quelqu'un qui... soit est en passe d'avoir un travail, quelle que soit la typologie du contrat, ou qu'il l'est déjà, mais qui bénéficie pas de lieu d'hébergement, en fait.
Ouais.
Ou alors qu'il n'y a pas un lieu d'hébergement suffisamment stable. Et c'est souvent ce cas-là où il y a des cas un peu différents.
C'est souvent ce cas-là. Après, on a malheureusement des cas un peu différents, puisque la précarité, c'est pas une seule typologie de public, et celle qu'on adresse non plus. Mais effectivement, on a beaucoup de travailleurs en situation précaire, qui, très souvent, pour une raison d'une séparation, se mettent à dormir dans leur voiture. Mmh. Et en fait, ça va très vite. On estime qu'il faut 3 jours dans la rue pour en fait, vraiment basculer. Mmh. On a aussi malheureusement des étudiants, donc des personnes qui en fait ont quitté le domicile familial pour aller faire leurs études dans une ville voisine, une ville un peu plus loin, voire même dans un pays étranger, la France,
et ils n'ont
pas, en fait,
les moyens.
Je sais pas, ils n'ont pas eu la bourse qu'ils demandaient, etc. Et ils se retrouvent à dormir dans des situations super précaires. Et souvent, ils ne le disent pas à leurs parents non plus. Donc, il y a ces populations-là. Et puis, il y a aussi des populations de femmes qui subissent des violences conjugales, qui du jour au lendemain ont quitté leur domicile. Qui en fait ont parfois même pas d'emploi, donc qui n'ont pas la ressource pour se retourner tout de suite. Et donc, effectivement, les bureaux du cœur, ça veut vraiment être un sas, une période de tremplin dans laquelle, voilà, au moins on pose ses valises et on construit ensuite son projet d'insertion, quel qu'il soit, pour rebondir.
Et alors, merci de ces explications-là. Le rôle des bureaux du cœur, c'est d'être un facilitateur d'insertion sur la partie hébergement et remise sur les rails. La question que je me pose, c'est est-ce que il y a un rôle complémentaire aussi de tu parlais de médiation tout à l'heure, mais de justement de conseils sur ces gens-là ou d'écoute aussi, même si c'est pas vraiment le métier premier, mais tu vois où l'idée c'est justement de se cantonner un peu pas à l'efficace, mais à votre rôle premier qui est effectivement de positionner ces invités-là dans au bon endroit à la bonne période, etc.
Bah, ce rôle d'écoute et de conseil, il va vraiment être plutôt le rôle, mais c'est même pas un rôle qu'on attribue, mais c'est un rôle que prend naturellement les salariés des entreprises.
Okay.
Qui, en fait, nous, au fond, les personnes qu'on accueille, enfin, les invités qu'on va mettre dans des bureaux d'entreprise, on les connaît pas tant, mais c'est le lien qui va se créer entre le salarié de l'entreprise et l'invité, qui va permettre justement à l'invité de se confier, de éventuellement demander un petit coup de main. Bah, demain, j'ai un entretien, est-ce que ça te dirait de donner un petit coaching sur comment est-ce que je dois me présenter en entretien, t'aurais pas une cravate à me prêter, enfin, en fait, ce genre de petits éléments qui va vraiment, à ce moment-là, accélérer l'insertion des personnes invitées. Et ça, c'est un lien qui se fait de manière naturelle, et je pense que c'est vraiment la contrepartie des entreprises, c'est ce que ça peut leur apporter en tant qu'organisation, mais aussi en tant qu'individu.
Ouais, bien sûr.
En fait, c'est avoir des discussions et des échanges avec des gens qui sont pas du tout de notre milieu. Enfin, c'est une possibilité de s'engager personnellement pour une personne qui est un peu comme notre collègue qu'on croise tous les jours, mais qui en fait vient d'un environnement, d'un univers complètement différent du nôtre. Et c'est quelque chose qui va énormément fédérer les équipes, qui vont se sentir super fières et super reconnaissante de leur entreprise de pouvoir le faire dans le cadre de leur boîte. On sait qu'on parle de plus en plus des jeunes et puis même des moins jeunes qui ont envie de trouver du sens dans leur travail. L'entreprise apporte l'opportunité pour ces personnes-là de s'engager pour une personne très concrètement dans son entreprise.
Alors justement, merci pour cette réponse-là, mais et je rebondis sur une question que j'avais un peu plus tôt qui me trottait dans la tête, c'est lorsque tu as une entreprise qui veut accueillir un invité en passant par les bureaux du cœur, il peut le faire à titre individuel en tant que avec des dirigeants, etc., ou à titre collectif avec les collaborateurs. Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui est faite justement auprès des individus, des salariés de l'entreprise, justement pour leur dire voilà comment ça va se passer, voilà quelles sont les attentes, etc. Comment concrètement ça se déroule?
Ouais, ça, on est vraiment en train de travailler dessus, puisque initialement, on n'apportait pas justement cette expertise, mais expertise qu'on avait aussi peut-être pas nous-mêmes. Donc, on a eu besoin aussi de comprendre les différentes postures. Typiquement, c'est vrai qu'une réaction un peu naturelle des entreprises, quand elles démarrent un accueil, leur premier accueil, elles vont attendre la belle histoire. Elles vont attendre que ça se passe
trop bien. Elles
vivent
un peu dans le monde des bisounours,
ouais,
quoi, quand même. C'est intéressant de le savoir.
Et que on va avoir un lien de fou qui va se créer avec son invité, on va devenir super proche, et puis je vais pouvoir l'aider, et puis cette personne va trouver... Enfin, en fait, ça va être la belle histoire qu'on a envie de lire partout. Cette belle histoire, elle arrive hyper souvent.
Ouais.
Mais quand elle n'arrive pas, on a des personnes qui sont un peu étonnées. Bah, en fait, c'est marrant, on ne le croise pas tant que ça, notre invité. On dirait qu'il a un peu peur de nous, qu'il ne se sent pas super à l'aise. Mais oui, mais c'est normal. Et en fait, c'est
normal,
grâce à tous ces apprentissages qu'aujourd'hui, on est capable de dire aux entreprises... Il peut y avoir de belles histoires, comme il peut y avoir des histoires plus compliquées ou des histoires sans histoire, ouais. En fait, ou finalement...
Ou pas d'histoire du tout,
pas d'histoire,
en fait,
c'est ça,
pas
ouais.
de symbiose.
Ouais. Voilà. Et en fait, c'est comme quand vous recrutez quelqu'un dans votre équipe, vous avez l'impression mm-hmm. que vous allez devenir trop copain, et en fait, vous ne devenez pas copain, et c'est la vie, en fait, on ne fait
puis,
pas de ce qu'on s'entend.
Et c'est pas grave, mais ça arrive.
Et c'est pas grave, ouais. Et donc, ça, on est vraiment en train de travailler pour pouvoir le partager aux entreprises. Donc, chaque personne, enfin, donc pendant chaque accompagnement, une personne... Enfin, les entreprises sont accompagnées par un référent qui est un bénévole de l'association,
okay.
Qui est formé pour ça et donc qui va expliquer autant aux dirigeants qu'aux salariés comment est-ce que ça peut se passer.
Ouais.
Et on aimerait aller plus loin et travailler avec d'autres associations, notamment Entourage, La Cloche, J'accueille, qui sont des organismes avec lesquels on bosse en grande proximité, hein, qui sont aussi des organismes qui travaillent pour des publics de grande précarité et qui ont des apprentissages un peu plus, j'ai envie de dire, historiques que nous,
ouais.
qui sont plus vieux, et on aimerait qu'ils puissent intervenir en entreprise pour aller faire un pas plus loin et aller vraiment sensibiliser sur les enjeux de lutte contre la précarité, comment est-ce qu'on va vers des personnes, qu'elles soient dans la rue ou qu'elles soient dans nos bureaux, comment on s'adresse à des personnes qui n'ont pas la même culture que nous, quelles sont les questions qu'on peut poser, quelle attitude finalement on peut avoir, parce que c'est pas naturel.
Non, mais exactement, peut-être de part et d'autre d'ailleurs aussi, mais c'est vrai que j'imagine qu'effectivement quand t'es dans un collectif, tu vas te dire comment je m'adresse à la personne, comment je vais interagir, est-ce que je lui propose des choses, etc. Est-ce que je me sens légitime de lui proposer des choses, beaucoup de questions à mon avis,
ouais.
et qui doivent être différentes bien évidemment d'un individu à l'autre dans la boîte, hein, par
ouais.
exemple.
C'est sûr. Typiquement, moi, quand j'étais plus jeune, à l'époque où j'avais monté mon association Becky, ça s'adressait en grande partie à des personnes, à des populations en grande précarité. L'idée, c'était vraiment de partager des repas en mélangeant les populations. Et donc, j'avais fait différentes formations. Et en fait, on t'apprend que quand tu es dans la rue, quelqu'un qui fait la manche, c'est quelqu'un qui, en fait, a besoin de l'argent qu'il va collecter pour redîner, etc. Mmh. Et si tu te poses devant lui pendant une demi-heure, tu le gênes pendant sa manche, en fait.
Ouais,
enfin, et donc,
ouais.
il faut réussir à comprendre les postures qui sont peut-être pas vraies pour tout le monde,
bien
mais
sûr,
pour autant, en fait, il y a des démarches. Et, et quand on s'adresse à quelqu'un, c'est quand même bien de se mettre à sa hauteur. Enfin, c'est tous ces réflexes. Là, je parle de la grande précarité, notamment dans la rue.
Oui, oui, bien sûr.
Mais dans les bureaux, ça pose aussi d'autres questions. De,
complètement.
Je sais pas, quelqu'un qui a eu un parcours migratoire super dur, est-ce que je veux lui dire, toi, tu viens d'où comment t'es arrivé en France? Enfin, c'est des questions qui peuvent être délicates à poser aussi. Donc
non, mais t'as raison, il y a un balisage quand même important à faire, individuel et collectif, très clairement.
Et c'est hyper important pour nous que les invités qui sont accueillis soient correctement accueillis et que ce ne soient pas des personnes qui soient d'autant plus stigmatisées dans l'entreprise,
ouais, ouais.
qui en fait serait complètement, non pas contre-productif, pardon, mais qui serait voire même destructeur pour la personne qui est en phase d'insertion, que de se sentir stigmatisée et qu'en fait finalement elle se referme aussi sur elle-même. Donc c'est hyper important pour nous que ces personnes, enfin les salariés d'entreprise soient sensibilisés pour vraiment faciliter l'insertion de ce public-là en entreprise.
Et alors, la personne que tu reçois, qui a reçu l'invité dans l'entreprise, c'est quoi? C'est 3 mois plus 1 mois renouvelable, c'est ça? Dis-moi si je dis des bêtises.
Ouais, c'est 3 mois plus 3 fois 6 mois, là, on est,
okay,
on est dans
d'accord.
la complication, mais c'est jusqu'à 6 mois, de 3 à 6 mois.
D'accord, ok, super. Et c'est toujours renouvelé ou ça dépend? Ça dépend des histoires aussi
Ça dépend des histoires, ouais. ça dépend des villes dans lesquelles on accueille, puisqu'il n'y a pas les mêmes tensions aussi autour des résidences sociales, du logement ou de l'hébergement social. Et la durée moyenne d'accueil au Bureau du Cœur, elle est de 4 mois, donc 3 mois plus un renouvellement.
Ouais.
Après, on a des gens qui sont partis au bout d'un mois et demi parce qu'ils avaient trouvé un logement, d'autres qui sont restés plus longtemps. Et donc voilà, on est encore en train de construire là-dessus.
Ok. Si on passe au côté chiffré, tu sais, ça c'est mon côté ancien commercial. Non, il y a eu combien d'invités qui sont passés par l'asso?
Aujourd'hui, on a 350 invités qui sont passés par l'asso.
Donc en 2 ans à peu près,
un peu plus
de
2 ans.
Un peu plus
de 2 ans. Mais c'est vrai que la première année, on a accueilli 30 personnes.
Ouais. Ça monte
350,
de manière pas exponentielle, mais il y a une croissance.
Typiquement, depuis le début de l'année, on doit avoir démarré l'accueil d'au moins, je dirais, 80 personnes. Donc c'est pour montrer à quel point. Depuis le 1er janvier 2024.
Donc on est fin février.
Ça fait un mois et demi.
Ouais,
et en fait, c'est exponentiel, puisqu'effectivement, toutes les entreprises qui accueillent. Et je dis bien toutes, puisqu'on n'a presque aucune exception, renouvellent leur accueil. Donc, une entreprise qui accueille 4 mois, elle peut éventuellement accueillir 3 personnes dans l'année. Et donc, en fait, en grossissant ce nombre, puisque je peux même compléter avec le nombre d'entreprises hôtes, donc d'organisations qui accueillent, on en a 160. On en a chaque mois de plus en plus. Et donc, effectivement, la courbe devient exponentielle en termes d'invités accueillis.
Et est-ce que tu as déjà eu ça, c'est pas mon côté start-upper, premier, mais on parlait de la comparaison start-up tout à l'heure. Mais est-ce que tu as déjà eu des boîtes qui t'ont dit, mais en fait, nous, on a plus de place, donc on peut accueillir 2-3 personnes.
Ouais.
Est-ce que ça a déjà été un sujet ou pas? Et est-ce que ça sera un sujet dans un avenir proche?
C'est certain, puisqu'on a de plus en plus de grands groupes qui s'adressent au bureau du cœur. Et la question, effectivement, d'accueillir une personne dans 1600 m², c'est un peu ridicule.
Ouais.
Donc, on se dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit à chaque étage, dans tous les bâtiments. Enfin, voilà. Et ça, on est en train de le réfléchir, parce que, disons qu'on ne freine pas, mais que pour l'instant, nous, on est un peu frileux, parce que pour nous, c'est essentiel que l'invité ait son espace d'intimité. Aujourd'hui, la plupart des dispositifs d'hébergement d'urgence sont collectifs.
Ouais.
Nous, on veut offrir un chez-soi à quelqu'un. Et le chez-soi, il est possible, puisque en France, on s'adresse principalement aux PME. Il y a 143 000 PME en France et 330 000 personnes en situation de précarité.
Ouais.
En faisant un ratio, on se rend compte qu'en fait, finalement, si toutes les PME accueillaient deux fois, on pourrait avoir accueilli toutes les personnes en situation de précarité. Donc, en termes de chiffres, on se rend compte qu'accueillir une personne, ça pourrait, même si ce chiffre est peu élevé, résorber la précarité, enfin, résorber du moins la réduire. Et donc, pour nous, c'est important. Après, c'est vrai qu'on ne se fermera pas à des multi-accueils, mais pour autant, on veut vraiment que la personne se chante chez elle.
Ouais.
Et donc, il faudra que dans chaque site, on reproduise le petit coin de nuit, l'armoire, enfin voilà, qu'il n'y ait pas de partage d'espace, peut-être le partage de la douche ou des sanitaires, mais on voudrait vraiment pouvoir apporter à une personne une intimité et le confort de vrai et de vivre dans des espaces seuls.
Je reviens sur une des questions que tu soulevais il y a deux secondes, enfin sur une remarque que tu évoquais. Est-ce qu'il y a une typologie de boîte? C'est-à-dire, on a parlé de PME, on a parlé de grands groupes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'as dit, hein, vous ne ciblez pas, puisque vous ne démarchez pas, ça vient directement vers vous. Est-ce qu'il y a une typologie de boîte, un secteur qui s'y prête bien? Ou pas du tout? Ou non, c'est extrêmement varié
Ouais, c'est super varié. On a beaucoup de boîtes dans le tertiaire, mais ça peut être autant des agences de com, des cabinets d'experts comptables. On a des notaires même qui accueillent, donc c'est super large.
Là, c'est vraiment des TPE presque.
Ouais, TPE, PME, mais qui sont effectivement dans le privé. Mais on a aussi maintenant de plus en plus de collectivités, on a des mairies qui nous contactent. Bah, nous aussi, en fait, on a des espaces qui sont dispo. On a parlé au ministère. Donc voilà, il y a quand même des choses. Enfin, on se rend compte qu'en fait, c'est un dispositif qui demande du bon sens et dans tous les espaces de travail, bureaux, quelle que soit l'entreprise ou la structure, les espaces sont sous-utilisés. Et donc, nous, les bureaux du cœur, on vient optimiser les usages, qui est à la fois une question qui va aider et accompagner des personnes en situation de précarité, mais aussi répondre à un enjeu écologique assez absurde de se dire on a des espaces qui ne servent à rien, la nuit et le week-end. Et donc principalement ces structures-là, mais encore que on a des artisans aussi, des menuisiers, des boulangers qui en fait dans leurs espaces mettent à disposition ces cinq éléments-là que je disais tout à l'heure pour accueillir.
Et tu vois, je reviens, je crois que dans les pays scandinaves, c'est quelque chose qui est pas mal développé hein, sur les bureaux inoccupés, entre autres, hein, parce qu'il y avait un certain nombre de surfaces qui étaient inoccupées. On a vécu ce problème-là à un moment donné. Je parle pas de Paris, mais de la Défense. Mais effectivement, on avait ces tours qui sont en renouvellement constant, etc., où il y a souvent beaucoup de place, en fait. Ce serait une bonne idée, tu crois, de se dire, en fait, ces bureaux-là peuvent être... pas réquisitionner, c'est pas le bon mot, mais utiliser à d'autres fins que des fins de bureau.
Certainement, c'est sûr. Nous, on le fera pas dans le sens où nous, l'intérêt des bureaux du cœur, c'est de créer du lien et de mélanger des populations.
Donc là, tu passes à côté de cet aspect très humain, quoi.
Mais pour autant, il y a des super assos. Je pense notamment à Caracol, qui est une association lyonnaise, qui en fait réquisitionne. Enfin, c'est un bien grand terme, mais qui en fait utilise des espaces existants, du foncier existant, que ce soit une maison léguée, que ce soit un bureau d'entreprise complètement vide, pour créer des colocations solidaires avec des jeunes actifs et des populations réfugiées.
Ok. Tu parlais de l'aventure humaine. Je vais rentrer encore dans ça, c'est mon côté aussi analyse de la performance, on va dire, mais comme on est sur l'humain, c'est un peu différent. Comment tu mesures l'impact en fait créé, parce que à un moment donné la sortie de l'invité elle se prépare et puis derrière c'est de se dire est-ce que l'ancien invité se trouve dans une continuité qu'il a stabilisé sa situation, qu'il n'est plus en situation de précarité. Comment tu qu'est-ce qui te permet de te dire en fait ça a marché, ça a pas marché?
Ouais. L'impact il se mesure par effectivement la qualification, j'ai envie de dire, de la sortie de l'invité, si c'est une sortie déjà qui a été choisie par l'invité, okay. C'est hyper important pour nous. Et si c'est une sortie vers une solution stabilisée, quelle qu'elle soit, si c'est un logement dans le parc privé, super, un logement social, un hébergement social, enfin voilà, on va vraiment qualifier cette sortie-là. Et puis évidemment, c'est de s'assurer qu'elle s'est pérennisée dans le temps. On se rend aussi compte, mais en fait, toutes ces questions, elles sont assez fraîches et on n'est pas.
Oui, c'est ça.
La réponse est peut-être un petit peu foireuse, mais c'est parce que. On est encore en train de. On travaille notre mesure d'impact et donc on cherche à identifier tous ces leviers-là. Mais on se rend compte aussi que les bureaux du cœur, c'est en fait un espace qui va permettre le retour à l'emploi. Aujourd'hui, 50% des invités qui entrent dans les bureaux du cœur ont déjà un emploi, mais presque 80% des invités qui en sortent ont un emploi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a au moins 30% des invités qui trouvent un emploi dans le cadre des bureaux du cœur. Et peut-être que finalement, les bureaux du cœur, au-delà d'offrir une sécurité, une intimité, un confort à une personne pendant un moment donné, c'est aussi un espèce de terreau fertile pour créer un pont entre une personne désinsérée et le monde de l'entreprise, pour désacraliser le monde de l'entreprise et faciliter l'insertion dans l'emploi de ces invités.
Oui, parce qu'il y a des trucs, en fait, je digresse, hein, mais il y a des impacts que tu ne peux pas vraiment mesurer, qui sont intangibles, qui sont soit qualitatifs, soit intangibles, etc., qui sont... je sais pas, la confiance en soi, par exemple, la capacité à aller vers l'autre pour chercher de l'aide, et inversement peut-être aussi, à apporter son aide aussi, à se sentir suffisamment confiant pour aller vers l'autre. Donc tout ça, c'est des choses qui sont difficiles à palper, si j'ose dire, mais ça, les boîtes, les individus des boîtes, les collectifs, ils vous remontent à la sauce, ce genre de choses aussi, ce genre de choses positives, quoi.
Qui concerne les invités?
Ouais.
Bah c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps je parlais avec une entreprise qui m'a dit quelque chose qui m'a assez marqué, qui m'a dit mais on a vu notre invité se redresser.
Okay.
Et se redresser, c'était vraiment physique. C'est-à-dire que la personne, elle était toujours épaule en avant, le cou un peu rentré, etc. Et qu'en fait, la prise de confiance, et puis la stabilité, et le rayonnement de la personne a fait qu'elle s'est redressée. Et on a dit, mais on a vu pendant 3 mois notre invité se redresser.
Métamorphose, quoi.
Pour redevenir quelqu'un. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui n'était plus.
Ah, c'est extraordinaire.
Parce que, en fait, il y croyait plus, quoi. Et donc, je pense qu'effectivement, difficile à mesurer, encore que du coup, ce matin encore, j'étais avec notre cabinet de mesure d'impact et on se disait comment on va mesurer justement ce qui n'est pas mesurable. Mais il faut qu'on mène des entretiens qualitatifs, puisqu'en fait, c'est aussi ça, les bureaux du cœur.
Oui.
C'est pas uniquement du quantitatif, vraiment...
C'est d'aller chercher des verbatims un peu dans le détail et tout. Alors après, c'est un travail de titan quand même, parce que interroger plein de collaborateurs... Bon, après, tu peux le faire en mode questionnaire digital, peut-être, mais...
Ouais, on aimerait surtout interroger les invités eux-mêmes.
Ouais,
après, du coup, se poser la question de est-ce qu'on est les bonnes personnes, puisqu'en fait, l'invité peut-être aura envie de nous faire plaisir, parce qu'on est bureau du cœur. Donc, comment est-ce qu'on fait intervenir un tiers qui le mette en confiance pour pouvoir poser ces questions-là? Ça se trouve, l'invité va dire « je me suis senti super mal à l'aise », enfin, on n'en sait rien, mais...
Je suis partant, hein, n'hésite pas. Je suis totalement partant dans le cadre du lundi au soleil, bien évidemment, ou d'ailleurs si tu veux, mais je trouve, parce que c'est sûr que là il doit y avoir des discussions. Effectivement, je suis d'accord, il peut y avoir une notion de filtre un peu presque voilà, qui se met en place, etc. Et l'idée, c'est d'avoir une parole vachement libérée, et là, à mon avis, tu touches à des trucs assez puissants, je pense, hein.
Carrément.
Alors, tu le disais, vous avez envie d'avoir une croissance sereine. Moi, j'aime bien ça. Je balance, mais tu disais, on n'est pas une start-up. Mais non, mais j'ai du mal avec le côté... J'ai pas du tout dit ça. J'ai du mal avec le côté hyper-croissance. Bon, bref, c'est moi. Mais il y a quand même une notion... Et je te le disais, j'en parlais avec Yann Roland l'autre jour, qui voulait déployer ce qu'étaient les fondations d'entreprise. Il y a quand même une notion de volonté de déployer cette mission-là et ce message-là et cet activisme un peu, quelque part-là. Est-ce que c'est 2024, c'est 1000 invités? Est-ce que 2025, c'est 2000? Comment t'envisages la suite, quoi?
Écoute, là-dessus, c'est vrai qu'on n'est pas une start-up. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour nous parce qu'on a envie de faire grossir le projet de manière organique, de le faire grandir de manière croissante, mais une croissance qui se veut
raisonnée,
parce qu'en fait, aujourd'hui, toutes les organisations qui accueillent sont accompagnées par des référents qui sont bénévoles, et ces bénévoles vont suivre les invités et les accueils. Et on ne veut pas perdre en qualité. On ne veut pas faire du volume. On ne veut pas accueillir des invités à la chaîne parce que ça nous permettrait de valoriser ça sur notre mesure d'impact. On a vraiment envie d'accélérer l'insertion et donc aussi, avant toute chose, de s'assurer qu'on sécurise la sortie de nos invités, de s'assurer que les salariés et l'organisation a bien compris comment accueillir quelqu'un et qu'elle le fait dans les bonnes, la bonne disposition pour le faire. Et donc, pour ces choses-là, on s'est fixé un cap qui est quand même assez ambitieux. On veut que d'ici 2028, donc maintenant dans 4 ans, on veut que 1000 entreprises, chaque soir, accueillent leurs invités.
Okay.
Et ce qui nous permettra donc d'avoir accueilli, si tout va bien, 7000 personnes d'ici 2028. Et on n'est pas une start-up, on ne va pas faire de levée de fonds pour soudainement multiplier le truc par 10 000.
Non. Ouais, bien sûr.
Parce qu'on a vraiment besoin de cette stabilité, enfin de cette croissance progressive pour stabiliser, pérenniser le projet. Mmh. Et surtout parce qu'on parle d'humain. Et que quand on parle d'humain, on a vraiment besoin de s'assurer que tous les éléments sont réunis et qu'on ne balaie pas d'un revers de la main au profit de la croissance. En fait, un aspect de notre accompagnement qui est pourtant primordial.
Et pour y arriver, déjà bravo pour cette ambition, je trouve qu'elle est cool. Et parce que elle est, c'est une punchline. C'est mon ancien communicant qui parle là, mais c'est ambitieux mais réaliste. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est atteignable, mais qui est pas suratteignable, où on saigne pas. Pour y arriver. C'est quoi un peu les conditions sine qua non? C'est de se dire, il nous faut des gens avec un maillage géographique peut-être plus établi. Il faut que, je te dis une bêtise, des pouvoirs publics ou localement, les collectivités soient plus impliquées. C'est quoi les gages de réussite pour y arriver?
Ouais, on a plein de piliers, enfin, on a plein de leviers à actionner pour atteindre cette ambition-là. Aujourd'hui, il faut déjà assurer la structuration de l'association pour assurer son développement. Donc là, on est vraiment en termes de... C'est très technique, mais c'est des outils, de tous les documents juridiques. Enfin voilà, c'est vraiment de s'assurer que ça roule et que ça roule extrêmement bien. C'est-à-dire que le
rouage est... D'industrialiser un peu les process.
Exactement,
quoi.
Ouais. Jusqu'à présent... on n'avait pas de knowledge management, mais donc la formation, c'était un peu de l'oral. Je te dis un bénévole, ça. Et en fait, aujourd'hui, on a tout écrit. Enfin, on a vraiment besoin aussi d'industrialiser même nos formations, puisqu'on va augmenter le volume de recrutement de nos bénévoles. Donc, on a besoin aussi d'accélérer là-dessus. Donc, il y a toute cette partie-là qui va vraiment être structuration en amont de l'essaimage, validation aussi de à quoi va ressembler notre essaimage. L'essaimage, c'est vraiment le terme associatif un peu à la mode.
Ouais, mais moi, je ne connais pas ce verbe intime-là. Je te prie de me
l'écrire. Pour les gens du monde associatif qui vont entendre, ils vont se dire, ah bah oui, l'essaimage.
Et qu'est-ce que l'essaimage?
L'autre, l'essaimage, c'est vraiment essaimer. C'est se démultiplier son impact à travers les territoires.
Okay.
Et pour cet essaimage, donc on souhaite vraiment effectivement donc étendre nos territoires. On va être dans 50 villes en France d'ici 2028. Okay. Et ça, c'est pas une ambition... on ne se dit pas on va être partout, c'est juste qu'on est on est sollicité partout. Donc on veut pouvoir répondre aux entreprises qui sont situées dans les 50 villes en France. On estime que c'est à peu près dans les 50 plus grandes villes qu'on aura le plus d'opportunités de développement.
D'accord. Ouais.
On a deux autres ambitions qui vont vraiment pour nous permettre d'atteindre la mission des Bureaux du Cœur, qui est celle de « on ne veut plus personne à la rue » grâce à la solidarité des entreprises et des salariés. La deuxième ambition, c'est vraiment, une fois qu'on est finalement des acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est, on a mis le pied dans le pas de la porte de la boîte, qu'est-ce qu'on fait derrière pour que les salariés de l'entreprise, ce soient eux-mêmes des ambassadeurs de cette lutte contre la précarité? Comment est-ce qu'ils s'emparent eux-mêmes de ce sujet-là? Soit en rendant...
De cette manière ou d'une autre, d'ailleurs.
Exactement, en rendant un coup de main à leur invité, voire même en accueillant eux-mêmes chez eux, avec des dispositifs comme J'accueille de Singa, où ils ouvrent leur chambre d'amis pour accueillir. Et puis le troisième projet, là, c'est un projet politique, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer la législation, puisqu'aujourd'hui, les Bureaux du Cœur, ils œuvrent dans un cadre qui n'est pas défini, puisque oui, personne ne l'avait fait avant nous, oui, complètement flou. Et donc, c'est comment on fait évoluer la législation pour favoriser l'émergence de dispositifs d'hébergement citoyen et pour encourager donc l'émergence de dispositifs comme le nôtre. On ne veut pas prêcher notre paroisse.
Ça, c'est du plaidoyer, quoi.
Exactement. Okay. On ne veut pas prêcher la paroisse des Bureaux du Cœur, mais en fait, on est plusieurs associations, dont Caracol, dont J'accueille, dont Habitat Humanisme, qui utilisons tous du foncier existant. Donc, on est tous dans une optique de « il existe des choses ». Qui créons tous des liens, des passerelles entre des mondes qui ne se fréquentent pas. Chez nous, ça va être le monde des salariés avec les invités, donc qui créons des passerelles et qui créons donc un lien social important et qui avons en fait finalement cette capacité de démultiplier notre impact et en fait de faire en sorte qu'on ne soit plus des dispositifs marginaux,
en fait,
des
exotiques,
dispositifs
mais
d'ampleur.
Et
en fait, c'est en portant ce plaidoyer commun qu'on se dit qu'on aurait vraiment le potentiel de faire bouger les lignes juridiques et donc d'encourager les entreprises à rejoindre le mouvement, entreprises ou citoyens.
Top, c'est hyper clair. Je trouve qu'en fait, il y a une belle ambition derrière, il y a une belle mission. J'ai l'impression que ça a pas mal évolué. La prochaine fois, j'aimerais qu'on se fasse, bien évidemment, peut-être un épisode avec un invité, une entreprise aussi. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de faire ça rapidement. Ce sera peut-être pas sur un format aussi long, promis, mais je trouve que ce serait intéressant aussi. Alors, il y a la question de la parole libérée ou pas, mais on fera peut-être sans toi, du coup. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment convaincu qu'en fait, c'est avec des démarches comme ça, tu le disais, en fait, il y a une complexité administrative et juridique. Et je pense que pour moi, c'est le plus gros frein. Moi qui ai eu des boîtes, je me dis, bon, bah voilà, je propose ça. Je me dis, c'est un peu galère, quoi, etc. Et je trouve qu'en fait, tu déconstruis assez simplement la chose en disant, écoutez, moi, je le prends à ma charge et puis je le fais pour vous. Et c'est finalement, tu te concentres sur la valeur la plus importante de dispositif, entre guillemets, pardon de le dire comme ça. Tu me corriges, moi, si je le dis mal, mais c'est l'aspect de l'insertion dans l'entreprise aussi et de la façon dont la personne et l'invité va être accueilli. Parce que c'est ça, en fait, qui va jouer un rôle pivot dans, effectivement, aussi la suite, quoi. Donc voilà. En tout cas, moi, je trouve que le projet est absolument extraordinaire. Une fois de plus, je le dis, c'est vraiment pas du tout pour te brosser dans le sens du poil. Je trouve ça hyper cool. Donc, félicitations.
Merci.
Et à toi et à tous les gens qui sont derrière, Pierre-Yves, et puis tout le collectif. On termine toujours par des questions qui sont des classiques du podcast. On revient sur un truc un peu plus terre à terre, tu vois. Je pense que c'est bien pour atterrir. Est-ce que tu as une anecdote, une bonne ou une mauvaise expérience à nous partager, liée au Bureau du Cœur ou à ton expérience personnelle, professionnelle, peu importe?
Une anecdote ou pas, mais effectivement, j'ai... quand j'ai démarré au Bureau du Cœur, j'étais pas issue du milieu du social. J'allais rencontrer des associations pour leur vendre. J'avais un peu baigné dedans, mais enfin de manière complètement bénévole et amatrice. Enfin, je me disais juste ce serait cool de le faire et j'ai fait ce que j'ai pu, mais donc avec un vocabulaire niveau zéro, je pense comme
je
le tien, voilà,
c'est ça. Non, mais
toutes les personnes qui nous écouteront. Et je me retrouvais en réunion, mais tout le temps, avec des acronymes. Et à chaque réunion, je sortais avec une liste d'acronymes, je devais en avoir une quinzaine.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Et je me tapais le soir en rentrant. Ouais. Ok, alors je vais taper DALO, qu'est-ce que c'est? Ok, droit opposable, logement. Et j'étais un. Et en fait, ça reste effectivement, sur tout ce qu'on parle de logement, c'est administrativement des tas de choses qu'il faut connaître, que j'ai dû apprendre. Et en fait, c'est assez marrant parce que je pense que c'est aussi le point commun parmi nous tous qui avons rejoint les Bureaux du Cœur. C'est que tous les bénévoles des Bureaux du Cœur, c'était des personnes qui étaient néo-bénévoles, voire même néo-personnes dans le social. Et on s'est tous retrouvés en réunion avec des assos qui nous disent « Oui, mais quand tu t'appelles le SIAO, machin, etc. »
Donc en fait,
je vais noter ça dans
un coin. Il n'y a pas moyen de se former, en fait, c'est sur le tard.
Aujourd'hui, nous, on forme maintenant nos bénévoles pour éviter de les affoler en cas de réunion. Mais effectivement, ça s'apprend un peu sur le tard. En tout cas, moi, ça a été... ça a été mon apprentissage du début où en fait t'es complètement con et sauf que tu hoches la tête comme ça en disant j'espère que ça se voit pas que j'ai rien compris.
Mais tu soulèves une question importante. Est-ce qu'il faudrait dire excusez-moi, alors je pose la question au premier acronyme ou vous faites tous les acronymes en même temps? Mais tu vois, mais je comprends.
C'est un peu dur parce que en fait tu viens, tu leur dis que tu vas proposer un dispositif qui va permettre à des personnes en situation de précarité de sortir de là. Si t'as rien compris au dispositif et que tu sais pas quels sont les dispositifs d'hébergement sociaux, etc. Enfin en fait on te dit excuse-moi mais reviens quand t'es formé, quoi.
Oui, c'est ça. Tu peux passer pour un newbie, un novice, quoi. Et dire... Alors après, je pense que c'est... je sais pas si c'est la vibe de l'associatif, peut-être, mais c'est vrai que il faut connaître un peu. Ouais, ouais, ouais. Ok. Chouette anecdote. Est-ce que t'as une reco de contenu, de films, livres, podcasts ou autres qui pourrait venir un peu nous secouer, voilà.
Je recommande évidemment la chaîne YouTube des Bureaux du Cœur. Parce que c'est plein
J'aime
de
contenu. J'aime bien, c'est l'instant auto-promo.
Exactement.
Indique ça, chez vous.
Non, oui, effectivement, on a plein de vidéos témoignages qui, moi, m'ont bouleversée. Je ne sais pas si ce sera le cas pour vous, mais je pense que oui. Et sinon, j'aimerais évoquer le film qui a, je pense, déclenché mon engagement, qui est Merci Patron, de Fakir et Ruffin, qui pour moi était assez incroyable sur le système économique actuel, les inégalités sociales, la précarisation des travailleurs. J'ai trouvé que les personnages du film étaient du film. Enfin, c'est plutôt un documentaire qu'un film, mais les personnages sont hyper attachants. Et en fait, c'est à la fois terriblement dur parce que c'est sur la réalité d'un ménage hyper précaire qui travaillait chez LVMH, mais de l'autre côté c'est hyper drôle. Et moi vraiment quand j'ai vu ce film, du coup j'étais à Singapour, je suis ressortie de là mais avec une espèce de motivation et de hargne.
Ah ouais, d'accord, t'es pas ressortie abattue, t'es ressortie plus motivée.
Mais parce
jamais,
que c'est drôle et que finit bien et en fait. Et en fait, j'ai trouvé que c'était juste génial et je me suis dit, il y a des inégalités, il y a des très belles choses. Je ne dis pas ça pour critiquer LVMH, au contraire, ils ont fait des choses super. Mais en fait, derrière, je pense que l'engagement est nécessaire pour rétablir pour diminuer les inégalités qui sont quand même assez prégnantes. Et en tout cas, je pense que, je pense souvent à ce film. Donc,
ça a été un bon déclencheur, en tout cas.
Ça a été un grand déclencheur.
Ouais, c'est drôle. Mais écoute, j'aime beaucoup cette référence, en tout cas. Mais alors, on conseille vivement, mais je suis d'accord. Ça, à mon avis, c'est un bon accélérateur. Merci beaucoup, Kinda, d'être venu partager à la fois ton histoire professionnelle et l'aventure que tu vis actuellement et ce que vous êtes en train de mettre en place avec cette démarche profonde et sincère. Je savais que j'allais avoir beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Je t'avais un peu taquiné avant de commencer, mais vraiment, je trouve ça très cool. C'était vraiment un bonheur, cette discussion. J'ai hâte de voir la suite. J'espère que ce passage, c'est pas égoïste, mais j'espère que ce passage permettra de pas de t'apporter des leads, mais en fait de gagner encore en visibilité sur d'autres boîtes, effectivement, pour accueillir plus d'invités. Voilà. Et puis, bien évidemment, je suivrai ça très très près. Encore bravo, je trouve ça très cool. Et puis, j'espère qu'on échange très vite avec un invité, peut-être une boîte qui reçoit des invités.
J'espère aussi. Puis, merci d'avoir pensé et voulu mettre en lumière les Bureaux du Cœur. Comme je te le disais, c'est vraiment grâce à ces relais que tu es, que vous autres. Œuvrant dans les médias, pouvait vraiment aider à développer ce genre de dispositif. Donc, merci de nous mettre en lumière. Et puis, j'espère effectivement que d'autres décideront d'ouvrir leurs portes.
J'imagine, j'en suis sûr. Top. Écoute, excellente semaine. Et puis, j'espère qu'on se recroise très bientôt.
Merci.
Salut, Kinda.
Salut.
Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine !